Alors, le but de ce premier topo, c'est de voir un petit peu la distance entre le regard qu'on peut avoir et la réalité. Quelquefois, on a l'impression que c'est à peu près notre regard reflète bien la réalité, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir une distance, voire même quelquefois une distorsion entre la manière dont on voit la réalité et la réalité elle-même. Donc, et après, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas de manière pessimiste ou que je le dis, c'est qu'après, on peut travailler là-dessus. Une fois qu'on voit qu'il y a une différence, on voit qu'est-ce qu'on en fait de cette différence. Mais c'est important de savoir qu'il y a une différence. Exceptionnellement, il n'y aura pas trois parties, il n'y aura que deux parties. Dans le regard, je verrai d'abord que notre regard par rapport à la réalité, notre perception de la réalité, mais notre regard est limité. Donc ça sera, je vous donnerai quelques éléments pour voir que c'est pas le regard de Dieu. Le regard de Dieu, lui, il n'est pas limité, mais le nôtre, il est limité. Et puis la deuxième partie, ça sera plutôt l'interaction de notre regard avec celui des autres. Donc, ça sera quelque chose d'assez différent, voilà. Alors, d'abord, notre regard est assez limité. Notre regard comporte toujours une part d'interprétation. Ça, c'est le premier point. Il y a toujours une forme d'interprétation. Alors après, je ne vais pas rentrer dans la philosophie de la connaissance, et les diverses philosophies de la connaissance, une philosophie réaliste, idéaliste, etc. Je me situe quand même plutôt dans la ligne, peut-être, de ce point de vue-là, du personnalisme de Jean-Paul II, où bien sûr on connaît la réalité, mais en même temps on met quelque chose de nous dans la connaissance de la réalité. C'est jamais 100% objectif. Et encore plus quand on parle de connaître des choses humaines, c'est jamais 100% objectif. Il y a toujours une lecture de la réalité. C'est nous qui voyons la réalité comme ça. Peut-être notre voisin avec une culture différente verrait la réalité de manière un peu différente. Si c'est une femme, elle verrait la réalité aussi d'une manière différente que moi, un homme. Donc, je pense que c'est important de... Alors, sans tomber dans le relativisme, parce qu'il y a une réalité, tout ne se vaut pas, etc. Mais en même temps, d'avoir conscience qu'il y a toujours une interprétation. Dans notre regard, il y a une interprétation. Ça, c'est un premier point. C'est bon d'en avoir conscience. Et que notre regard, on ne peut pas l'absolutiser, parce que c'est toujours un angle de vue particulier. Voilà. C'est bon. Alors, le deuxième point, c'est aussi que dans notre regard, il y a plus ou moins de superficialité ou plus ou moins de profondeur, c'est une manière plus positive de dire. Vous connaissez certains passages de la Bible, alors ça c'est très clair, l'appel de, quand Samuel arrive chez le papa de David, vous vous rappelez, donc il voit les... un bel homme, tout ça, c'est sûrement lui, etc. Et puis, Dieu dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Et puis, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et du coup, c'est intéressant de voir que nous, dans notre regard, on voit... Notre regard, il rejoint jamais pleinement l'identité de la personne. Vous connaissez peut-être dans l'Apocalypse, il y a ce caillou blanc. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. C'est cette identité qui fait qu'on est nous-mêmes. Mais ça, nous, on approche de cette réalité, mais on ne la connaît jamais. Là, on connaît quelqu'un par son physique, par son comportement, par différentes choses. On a différents éléments de connaissance. Mais je pense que c'est important aussi, et ça nous plonge dans une forme d'humilité. On ne connaît jamais, on ne fait jamais le tour de la personne. Même les époux ne se connaissent jamais totalement, parce qu'il y a vraiment, il y a ce qu'on est profondément, notre être, au-delà de toutes nos caractéristiques, on pourrait dire. Voilà. Il y a seul Dieu nous connaît vraiment comme nous sommes. Alors, certaines personnes qui nous aiment et qui nous connaissent depuis longtemps, elles approchent un petit peu plus du foyer, on pourrait dire, mais voilà. Alors ça, c'était une deuxième chose. Notre regard, en fait, il est, il est plus ou moins profond. D'ailleurs, on en fait l'expérience. Quand on voit les jeunes arriver, par exemple, le week-end, on peut avoir une certaine idée. Et puis après, au fur et à mesure, on les connaît. On voit bien que notre idée, elle évolue en bien ou en mal. Il faut être honnête. Hein. Mais là, c'est en bien, hein, pour l'instant, je vous rassure. Mais vous, quand on connaît quelqu'un, voilà, notre idée évolue parce qu'il y a d'autres aspects de sa personnalité qui nous permettent de la connaître plus en profondeur aussi. Voilà. Alors, troisième chose, notre regard est partiel. Alors, c'est un peu différent. C'est qu'on a un angle de vue particulier. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Je vais prendre juste un exemple de la vie communautaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un exercice qu'on est appelé à faire, c'est à déplacer la caméra pour ne pas regarder toujours sous le même angle la personne. Alors, l'exemple, c'est... Donc, je suis responsable de la communauté ici, et du coup, il faut que j'exerce ma responsabilité. Et il y a un frère qui était tout le temps en retard, qui était généralement en retard. Hein. On ne dit jamais toujours, mais quand même 99,9%. On va dire ça. Non, quand même moins. Non, non. 85%. Et alors, du coup, ça, c'était mon angle de vue. C'est un peu dommage de réduire une personne au fait qu'elle arrive en retard. Mais bon, c'était mon angle de vue. Et à un certain moment, je me suis dit, tiens, mais ça suppose de prendre un peu de recul. En fait, pourquoi il est en retard? Alors, la qualité qui se cache derrière son défaut, c'est qu'il est assez disponible. Il est même très disponible. Ça, c'est une belle qualité. Mais du coup, il oublie tout le reste et puis... il rend service, tout ça, et puis il oublie les horaires, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà, j'ai changé l'œil de la caméra, d'angle, et du coup, je l'ai vu sous ce rapport-là. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, tiens, plutôt que de m'énerver parce qu'il arrive en retard, je vais lui demander des services. Parce que lui, ce qui le rend heureux, c'est de rendre service. Donc, je lui ai demandé de rendre service et je l'ai remercié, bien sûr, après. Et du coup, notre relation s'est améliorée et il est passé de 99,9 à 85% de retard. C'est quand même... Mais c'est, vous voyez, notre regard, souvent, il se focalise sur toc, on grossit, et puis on ne voit plus le reste, alors que c'est intéressant à certains moments de déplacer la caméra. Voilà. Alors... quatrième point, c'est que notre regard, il est plus ou moins positif, plus ou moins optimiste ou plus ou moins défaitiste ou je ne sais pas. Et, alors que dans certains exercices, on voit des points rouges et des points verts. Et on voit, alors soit on voit tous les points rouges, ce qui ne va pas, ce qui nous chatouille, etc. Soit au contraire, on voit les points verts, ce qui nous fait du bien, ce qui nous dynamise, etc. Mais selon notre regard, l'idée c'est que selon notre regard, après ce qu'on vit intérieurement et notre comportement, ça change. Mais ça part beaucoup du regard. C'est pour ça que je pense que le regard est vraiment un thème important, parce que la manière dont je regarde les choses, ben après je vis différemment. Là aussi, soit je regarde juste la face ténébreuse de quelqu'un, soit je regarde sa face lumineuse, mais ça vaut aussi pour moi. Je vais vous prendre un exemple. On a chacun une forme d'intelligence différente. Moi, je ne suis pas très créatif, c'est un peu laborieux, un peu poussif. Voilà, donc je pourrais me lamenter éternellement, mais ça ne changerait rien. De toute façon, je ne vais pas devenir créatif. Enfin, je peux m'améliorer à la marge, mais bon, c'est pas mon type d'intelligence. En revanche, s'il faut rédiger une notice, là, je suis plutôt bon. Parce que comme il me faut du temps, toc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et du coup, là les autres s'y retrouvent. Hein, parce que c'est pas trop génial, mais bon, moi, on y arrive. Je vois, il y a un autre frère de la communauté, lui, il est créatif. Vous lui demandez quelque chose, vous lui avez à peine demandé qu'il est déjà arrivé à la solution, mais vous lui dites, tu pourrais m'expliquer quand même comment on fait pour arriver de A à B? Oui, mais j'ai pas encore compris. Alors, le niveau pédagogique, c'est proche de zéro. Voilà. Mais pour dire que soit je le regarde sous l'angle du point rouge, je suis pas très créative, soit sous l'angle du point vert, voilà, ben je peux donner quelque chose aux autres parce que, en fonction de ma... Voilà, mon talent, ça sera plus d'être un peu plus pédagogue, et lui, ça sera d'aller très vite et de faire des choses que je serais incapable de faire. Donc, c'est intéressant de déplacer aussi la caméra, mais sous cet angle de ne pas voir, de se focaliser plus sur les points verts et ce qui nous est donné le meilleur de nous-mêmes, plutôt que sous les points rouges et d'être dans la plainte et voilà, je suis nul. Ce qui ne fait pas avancer. Voilà. Cinquième point. Le regard n'est pas déconnecté des émotions. Bon, alors là, c'est très vrai dans le rapport homme-femme, hein, entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé deux versets de la Bible en vitesse, là, tout à l'heure. Attendez, où je trouve ? Alors, un verset des Cantiques. « Tu me rends fou, ma sœur, ma fiancée, tu me rends fou par une seule de tes œillades. » Ou alors les proverbes. Alors, il y a des proverbes un peu croustillants, mais bon, je vais... Ne désire pas sa beauté en ton cœur et qu'elle ne te captive pas par ses œillades. Hein? Voilà, elle me prend par ses œillades et voilà, moi, je suis pris et je suis prisonnier de ses œillades. Ça, c'était juste pour dire que notre gars, il n'est pas déconnecté de nos émotions. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. C'est comme ça. Il y a des choses, ça suscite des émotions en moi. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Après, là où... Qu'est-ce que j'en fais? Si, du coup, à cause de ces œillades, je perds la tête et je fais n'importe quoi, alors là, c'est une autre affaire. Mais d'avoir conscience que... voilà, on n'est pas déconnecté de nos émotions. Et c'est souvent nos émotions qui nous font avancer. Alors, je ne vise personne dans la salle, même si je vois la personne qui est là. Vous savez ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes ? Fumez-tu. Ça vous cause beaucoup d'émotions ? Mais ce qui est assez étrange, c'est que ça pourrait nous émouvoir. Mais un jour, il y a une dame. Donc, elle avait son paquet de cigarettes, et puis plusieurs par jour. Voilà. Fumez-tu. Et puis quelqu'un lui dit, mais tu vas profiter combien de temps de tes petits-enfants? Alors là, ça a été autre chose parce que ça a touché l'émotion. Et du coup, voilà, du coup, quelque chose s'est mis en route. Mais pour dire que notre regard est... voilà, il y a une émotion qui peut être, qui est attachée à notre regard, plus ou moins selon les sujets, etc. Il y a des sujets mathématiques, je ne sais pas si ça vous... suscite de grandes émotions, mais voilà. Et sixième point pour cette partie-là, c'est qu'il y a quelquefois une distorsion cognitive, on va prendre ce grand mot, entre ce que je vois et la réalité. Entre, en tout cas, mon regard sur la réalité et la réalité elle-même. Quelquefois, ce n'est pas simplement un petit décalage ou une limitation, c'est carrément une distorsion. C'est un peu comme une illusion d'optique. Hein, vous croyez que le crayon est cassé, mais en fait... Mais quelquefois, on a des distorsions comme ça, où ça ne correspond pas du tout. Je suis assez marqué quand même, certaines fois, entre la manière dont les gens se perçoivent et la manière dont je les perçois. Je ne les perçois pas du tout de la manière dont ces personnes se perçoivent. Quelquefois, elles s'attribuent tous les défauts du monde. Ce n'est pas du tout comme ça que je les vois. Du coup, et je pense que mon regard a aussi... Le regard extérieur n'est pas forcément mauvais, je vais y venir maintenant, et il peut nous aider à corriger quelquefois quand il y a une distorsion. Non, non, rassure-toi, le crayon, il n'est pas cassé, il est droit. Tu le vois comme ça parce que peut-être il y a eu quelque chose dans ton enfance ou des réflexions ou qui t'ont un peu perturbé ta manière de regarder, de te regarder toi. Mais ça, c'est une illusion d'optique. Alors, tu peux pas faire comme s'il n'y avait pas d'illusion optique, et il y en a toujours, on en a toujours plus ou moins, pas forcément très grande, mais du coup, de savoir qu'il peut y avoir des distorsions cognitives, des illusions d'optique, et du coup, la sagesse à ce moment-là, c'est d'avoir un autre regard, un regard lucide, mais bienveillant, qui nous aide à corriger un peu cette manière de voir. Ça, je pense que c'est... Voilà. Oui, alors on parle aussi des croyances. Hein. Je ne parle pas de la foi en parlant des croyances. Ou peut-être on a un certain filtre qui nous permet de voir la réalité, mais c'est plus nous... Là, on rentre plus dans le kantisme. C'est plus nous qui projetons notre... Ne penser sur la réalité que la réalité qu'on ne connaît quelque part. Hein. Donc, ça va ? Alors ça, c'était la première partie. La première partie, donc, sur la limitation de notre regard et prendre conscience que notre regard a une limite. Celui de Dieu n'a pas de limite. Hein, et Dieu, donc, ça nous fait du bien de nous retrouver sous le regard de Dieu qui voit les choses de beaucoup plus haut, de manière beaucoup plus intime, etc. Et qui est, voilà, Dieu qui est immuable, etc. Donc ça fait du bien. Et du coup, nous, ça nous permet de travailler justement en ayant présent à l'esprit que notre regard, il a peut-être besoin d'être ajusté pour déplacer la caméra ou pour bouger. Parce qu'après... selon notre regard, ben on va dans telle ou telle direction, selon la manière dont on voit les choses. Deuxième partie. Dans le regard, il y a aussi une dimension relationnelle, en bien ou en mal. Hein, ça fait du bien, un regard qui nous est bienveillant et tout ça, qui pas forcément naïf, mais bienveillant, qui nous donc ça nous fait du bien. Mais en revanche, il y a des regards aussi qui nous blessent profondément. À un moment, j'avais pensé vous parler de la pudeur. Hein, la pudeur, c'est une manière aussi de se protéger un peu du regard des autres. Parce qu'il y a des regards quelquefois un peu plus intrusifs, pas seulement au niveau du corps, mais au niveau de l'âme. Donc, il y a une forme de pudeur. Je pense que c'est quelque chose de très beau, la pudeur aussi, parce que on peut pas être naïf vis-à-vis du regard des autres. Vous vous rappelez quand Adam et Ève... Adam, en tout cas, a découvert qu'il était en tenue d'Adam. parce que ouais, c'est après le péché. Hein, c'est après le péché. Oula, il a éprouvé le besoin de se protéger du regard de Dieu. Bon, il est un peu naïf parce que Dieu, il le voyait quand même. Mais son regard vis-à-vis de lui-même, d'abord, je pense. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant aussi de réfléchir sur la pudeur. Je ne le ferai pas ce matin, mais... sur la manière dont on, en tout cas, dont on gère notre, ce qu'on laisse voir à l'autre ou ce qu'on ne laisse pas voir pour garder aussi notre intimité, notre... voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des regards inquisiteurs, des regards concupiscents, des regards qui nous rabaissent, des regards... Bon, voilà. Alors, je vais retenir quatre éléments dans cette dimension relationnelle du regard. C'est bon? Alors, d'abord, il y a le regard qui condamne ou le regard qui libère. Je suis très marqué du fait que quand on juge quelqu'un ou quand on se sent jugé, quelquefois, il peut y avoir une distance. Peut-être que la personne, elle nous regarde, elle n'est pas très réveillée, elle nous regarde comme ça, elle ne nous juge pas du tout, mais nous, on interprète son regard comme ça, donc il faut toujours mettre un petit peu de... essayer d'y voir d'un peu plus près, mais ceci dit, dans certaines situations, je, Je suis marqué combien un regard qui juge, ça bloque toute la relation. Et du coup, ça nous fait perdre tous nos moyens et tout ça. Et en revanche, un regard bienveillant, ça nous aide à nous donner davantage, etc. Donc, alors, après, il y a notre part d'interprétation, ça c'est clair, mais ceci dit, il n'y a pas que la part d'interprétation. Il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment nous casser quand on se sent jugé. J'ai visité une communauté il y a quelques années et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que l'un ou l'autre frère se sentait jugé. Alors du coup, j'ai essayé d'être très vigilant pour pas du tout porter de jugement ou tout ça. Donc je mets pas du tout en cause tes intentions ou tout ça. Voilà. Après, dans le fait concret, peut-être, mais dans les intentions, de respecter les intentions, etc. Ça, c'est quelque chose de très important parce que, voilà, quand on se sent jugé, on est un peu... Mais là, on verra, et ça, peut-être, j'y reviendrai plus demain. Après, quand il y a un regard qui nous juge, on n'est pas obligé de se laisser juger, entre guillemets. On peut aussi prendre et pas se laisser... Donc, c'est là, dans cette dimension relationnelle du regard aussi, on peut... C'est pas toujours très simple, mais on peut arriver à ne pas se laisser entamer par ce jugement que l'autre porte sur nous. C'est son affaire, c'est son jugement. Après... Et d'ailleurs, souvent, le jugement nous indique plus de choses sur celui qui juge que sur celui qui est jugé, hein, très souvent. Oui, donc, voilà. Alors, donc, premier, dans cette dimension relationnelle du regard, le regard qui condamne ou qui libère. Après, une deuxième chose, le regard qui domine ou le regard qui élève. Hein, selon qu'on regarde quelqu'un de haut ou de bas, c'est pas la même chose. Quand on se sent regardé de haut ou de bas, c'est pas la même chose. Hein, bas. Il peut y avoir le regard un peu arrogant, méprisant, voilà. Et l'humiliation, ça c'est quelque chose qui revient souvent. On le voit au niveau politique, etc. Quand on se sent humilié, ça crée une violence. Souvent, quand on se sent humilié, c'est une grande source de violence. Si on veut la paix, il faut veiller justement à ce que tout ce qui peut se rapprocher de l'humiliation disparaisse. Alors après, il y a aussi ceux qui attisent la braise et tout ça et qui nous mettent dans la tête des humiliations qui sont peut-être illusoires. Hein, donc, il y a besoin d'un peu de prudence dans tout ça. Notre fondateur, le Père Lamy, il y avait eu des témoignages sur lui qui disaient que quand les gens se sentaient regardés par lui, ils se sentaient grandis, élevés, et non pas rabaissés. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Il y a le pape François qui nous dit que le regard qui valorise a une énorme importance. Mettre en valeur. Le regard qui met en valeur. Vous connaissez l'effet Pygmalion ? Ça vous dit quelque chose ? Enfin, je m'aventure dans des choses que je ne connais pas très bien, mais vous savez que il y a des écoles, ils ont dit aux profs, par exemple, c'est les plus nuls des plus nuls, ou alors c'est vraiment l'élite que vous avez. Et quand on leur disait ça, ben finalement, au bout du compte, quelque part, les élèves correspondaient un petit peu, parce que le prof s'y prenait un peu différemment, etc. Et du coup, soit s'ils étaient considérés comme les meilleurs, ils devenaient encore meilleurs. S'ils étaient considérés comme les plus nuls, ils devenaient encore plus nuls. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, il y a une... C'est intéressant aussi cette manière dont on regarde et qui peut soit abaisser, soit élever. Hein. Autre point, et j'espère que je ne vais pas trop dépasser, toc. Oui. Autre point, quand même, toujours sur ce regard qui domine ou qui élève. Vous connaissez peut-être, on peut être en position haute ou en position basse par rapport aux autres, alors sous différents aspects, mais j'ai pris conscience à un moment que je me laissais mettre en position basse, parce qu'on a notre, part où on peut réagir. Je pense à une personne qui était assez brillante intellectuellement, etc. Et du coup, je ne dis pas que c'était son intention. De fait, ça me mettait en situation basse. Et là, du coup, j'ai dû travailler aussi pour... Mais pourquoi ça me met en position basse, etc. Et du coup, c'est intéressant de voir un petit peu comment nous, on se positionne. Hein, parce que ce n'est pas une fatalité. Hein. Tout ce que je dis là, c'est justement parce que ce n'est pas une fatalité, on peut travailler là-dessus. Et à condition qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose et qu'on peut bouger quelque chose. Toujours dans la dimension relationnelle du regard, le regard qui compare ou qui ne compare pas. Quelquefois, il y a une forme de concurrence. L'important, c'est d'être soi-même. Alors, on pourrait parler de la jalousie, de l'envie, c'est des choses un peu différentes, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Et là aussi, plutôt que d'en rentrer dans ce regard qui compare, un regard qui compare, c'est toujours un regard qui nous... Soit on se trouve mieux, soit on se trouve nul. Donc, ça, dans tous les cas, c'est pas très... C'est pas le bon critère. Et l'autre aspect, toujours dans la dimension relationnelle du regard, c'est ce que je pourrais appeler la conformité sociale dans le regard. Alors, c'est vrai déjà que quand on est petit, on peut avoir tendance, à moins qu'on soit un rebelle, hein, ça, ce qui est... du coup, on fait l'exact contraire, mais de se conformer au regard de ses parents, parce qu'ils sont plus gentils avec nous quand donc on y trouve notre intérêt. Donc, mais aussi dans la conformité au niveau social. Hein, il y a des tests assez amusants qu'on pourrait visionner où on voit tout le monde se... On briefe quelques personnes et il y en a juste une qu'on n'a pas briefée. Du coup, on leur dit, est-ce que les points, quel est le point plus haut? Ils disent une erreur, mais nous, on regarde à droite. Bon, alors on dit comme les autres pour pas... il y a des expériences assez étonnantes, assez amusantes pour ça. Mais du coup, ça demande un certain courage aussi pour savoir... prendre un peu de distance avec cette conformité sociale, de ne pas se laisser paralyser par le regard de la société, de la communauté, de l'Église, mais de savoir être soi-même. Et tout ce que je dis là, donc, c'est pour dire que, d'une part, voilà, d'en prendre conscience, ça permet de travailler dessus et de ne pas rester à un niveau spontané et se laisser conduire comme... Voilà, mais on peut travailler dessus. C'est aussi que la correction fraternelle est aussi quelque chose de bon. On a besoin de croiser les regards, justement, pour avoir une appréciation plus juste de la réalité. Hein. Et parce qu'on n'est pas à soi-même la référence ultime pour connaître la réalité. Donc, il y a besoin de ce croisement de regards. Et alors, à la fois, vis-à-vis du regard des autres, il faut... prendre une certaine distance, avoir une certaine liberté par rapport au regard des autres. En même temps, il ne s'agit pas non plus de se blinder par rapport au regard des autres. Ils peuvent nous dire des choses tout à fait justes dont on n'a absolument pas conscience. Donc c'est précieux d'avoir aussi le regard des autres qui nous permet de mieux apprécier les choses. Donc il ne faut surtout pas diaboliser le regard des autres, même quand ils nous disent des choses désagréables, hein, ce qui peut arriver, et ce qui arrive de fait. Mais d'être un peu plus libre par rapport au regard des autres. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire ce matin.